Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, vous allez donc entendre un témoin clé, un homme, une femme qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jérôme Florin, journaliste à RTL. Je vais revenir pour vous sur une histoire aux multiples rebondissements, celle d'une personnalité hors norme qui a fasciné la France des années 80. Elle a un visage, celui d'une mamie gâteau, du genre qui reçoit ses petits-enfants le dimanche. Ce visage, c'est celui de Simone Weber. Bouclette et regard noir, perçant, glaçant, Simone est jalouse, elle est possessive, elle ne supporte plus de voir son ancien amant lui échapper. Il s'appelle Bernard Etier. Un jour de juin 1985, il disparaît mystérieusement. Les soupçons se tournent très vite vers Simone Weber. Elle est accusée de l'avoir empoisonnée avant de découper son corps avec une meuleuse à béton. Il y a beaucoup d'indices accablants, mais pas de preuves et surtout pas d'aveux. Surnommée la diabolique de Nancy, Simone Weber sera condamnée à 20 ans de réclusion. Aujourd'hui, elle a 90 ans. Elle vit à Cannes et continue de clamer son innocence. Cette affaire est indissociable de son juge, Gilbert Thil. Il va mener l'une des instructions les plus longues de l'histoire judiciaire. Près de 5 ans à tenter de prouver la culpabilité de Simone Weber. Ces deux-là se verront beaucoup. Naîtra même une certaine proximité, inédite dans les annales de la justice. Gilbert Thil, l'ancien juge d'instruction de Nancy, est la voix du crime de cet épisode. Bonjour Gilbert Thil.
Bonjour.
En 1985, vous êtes jeune juge d'instruction à Nancy. Le 9 juillet, des fonctionnaires de police viennent à votre cabinet et ils vous parlent d'une disparition inquiétante.
Bernard Etier a disparu le 22 juin 1985, en tout début d'après-midi. Plus personne ne l'a revu et donc le procureur de la République décide d'ouvrir contre X une information du chef de séquestration. C'est ce qu'on fait toujours quand on n'a pas retrouvé la personne. On peut pas dire si elle est morte, si elle n'est pas morte, etc. On commence les vérifications. Comme d'habitude, en matière criminelle, on recherche toujours dans l'entourage immédiat, en premier lieu, parce que c'est la plupart des crimes de sang qui sont perpétrés le sont dans cette sphère-là. Et on va s'apercevoir rapidement, à travers l'audition des sœurs de Bernard Etier, à travers l'audition de ses 4 enfants, il a eu 4 enfants, Bernard Etier, de 2 lits différents, qu'il avait vécu au tout début des années 80, pendant une année entre le mois de novembre 81 et la fin de l'année 82, avec une nommée Simone Weber qui, en dépit de la rupture qui est intervenue en cette fin d'année 1982, n'a jamais accepté cette rupture et l'a en quelque sorte harcelée. Alors nous reviennent des éléments rapportés par les uns par les autres, que Simone Weber s'était fait faire un double des clés de l'appartement de Bernard Etier, à tel point que ce dernier, dans les derniers mois, avait été obligé de changer toutes les serrures, qu'elle le harcelait en permanence. Les services de police ont essayé de la prendre en main, comme on dit dans le cadre des affaires de banditisme, de la filer, de la filocher, de la suivre. Il s'avère que c'est quelqu'un qui semble presque avoir une forme d'expérience de la clandestinité, puisqu'elle fait des demi-tours de sécurité dans les avenues à Nancy pour une femme qui a, elle aussi, 55 ans à cette époque. C'est assez peu banal.
Et à ce moment-là, vous allez placer Simone Weber et sa sœur Madeleine, qui vit à Cannes, les deux sont très proches, vous les placez sur écoute téléphonique. Elles prennent beaucoup de précautions quand elles se parlent.
On s'aperçoit assez rapidement que, bon, elles utilisent une sorte de langage codé. Un jour, Simone dit à Madeleine, tu notes les bons numéros du loto. Et donc, suivent une série de chiffres et on s'aperçoit que c'est le numéro d'une cabine téléphonique publique de la résidence Montéléo à Cannes, où est domiciliée Madeleine Weber. Et puis Simone Weber, elle fait des démarches auprès des postes et télécommunications. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, à savoir que elle demande comment est-ce qu'on peut être placé sur écoute téléphonique. Enfin bref, elle se méfie. Ou alors il faut trouver une autre école pour Bernadette. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Puis après on s'aperçoit très rapidement que Bernadette, c'est probablement le véhicule, une R9 de couleur bleu foncé qui a appartenu à Bernard Etier et qui a disparu depuis le 22 juin lui aussi. Et quand enfin on a la voiture, je donne le top d'interpellation et de Madeleine Weber par la police de Cannes et de Simone Weber par la police de Nancy.
Et elle résiste, hein, Simone Weber, elle a réponse à tout. Malgré tout, vous l'inculpez du chef d'homicide involontaire. Vous êtes convaincu de sa culpabilité. Pourtant, elle est loin d'avoir une tête d'assassin, c'est plutôt le visage d'une gentille grand-mère.
De mamie, voilà, de bonne mamie. Oh, si les assassins avaient la tête d'assassin, ça simplifierait considérablement et la tâche de la police et celle des juges. Mais vous avez des gens qui ont une figure poupine et qui sont des assassins redoutables. Et d'ailleurs, Vergès avait trouvé le terme « la bonne dame de Nancy », alors que la presse s'acharnait en disant « la diabolique », etc., ou « les sœurs diaboliques ». Mais bon, on n'a pas toujours la tête de l'emploi.
Et au fil de l'instruction, vous allez de surprise en surprise. D'abord, la meuleuse à béton, puis un témoignage des voisins de Bernard Etier, et enfin, un tronc humain retrouvé dans la marne.
C'est après la garde à vue que cette disqueuse à matériaux, appelée de manière erronée une tronçonneuse, qui est retrouvée dans le coffre de son véhicule. Et donc, on commence par retracer, là aussi, dans le cadre de l'enquête, cette tronçonneuse. Elle a été louée le 21 juin 1985 à un magasin spécialisé, Outika, dans la banlieue de Nancy. Et puis, reste en arrière-plan le témoignage des époux Hague. Monsieur Hague a 83 ans, sa femme a 73 ans. Ils habitent au rez-de-chaussée du 158 avenue de Strasbourg. C'est eux qui vont raconter que dans la nuit du 24, ils ont entendu vers 10 heures le soir un bruit sourd. Ils avaient dit d'emblée, hein, c'était bien avant que Simone Weber ne soit interpellée, comme le bruit d'un corps qui tombe, et puis après, un bruit d'un appareil, un peu comme un aspirateur, mais cassé, qui faisait beaucoup de bruit, et puis surtout qui circulait pas sur l'étage au-dessus. Et puis après, dans la nuit, au petit matin, ils ont vu Simone Weber, parce que vous savez comment sont les vieux, je ne peux pas en parler en connaissance de cause maintenant, ils ont l'œil rivé à l'œil ton toute la soirée pour regarder qui passe dans le couloir, et ils ont vu Simone Weber descendre une quinzaine, Monsieur Hague a dit qu'il les avait comptés, de sacs poubelles. Après, on arrivera à la découverte du tronc, celui qui a été découvert par un pêcheur à Poincy, dans la Marne, dans une valise. Alors, ce tronc, d'abord, les pêcheurs qui l'ont sorti de l'eau ont cru que c'était un animal. Et puis, quand ils ont ouvert les sacs poubelles, ils se sont aperçus que c'était un tronc d'un homme. Donc, plus de membres supérieurs, plus de membres inférieurs, plus de tête. Donc, les éléments d'identification classiques d'un corps humain, on n'est pas à l'époque de l'ADN, hein. Donc on fait des comparaisons vertébrales et les experts me disent si c'est pas Bernard Etier, c'est son frère jumeau. Donc ça va bien puisque Bernard Etier il a ni jumeau ni frangin.
Gilbert Hill, vous allez la voir combien de fois, Simone Weber ?
77 fois, mon général. C'est la raison pour laquelle ça intrigue encore cette affaire, en se disant près de 5 ans, c'est comme un vieux couple, quoi. Il y a des disputes et parfois on se souvient même plus du motif de la dispute. Et puis, elle avait une forme de respect vis-à-vis de moi. Je le lui rendais bien, d'ailleurs, mais de temps en temps, elle dérapait. Alors là, elle pouvait compter sur moi pour lui remettre les idées en place. La légende retiendra qu'elle m'appelait mon poussin. Elle ne m'a jamais dit mon poussin. Ça, moi, pendant un interrogatoire, je n'aurais pas accepté. Par contre, quand elle écrivait à sa sœur Madeleine, elle disait « j'ai vu le poussin, il a l'air crevé, je pense qu'il va mourir bientôt ». Donc voilà, c'était sa façon de personnaliser cette relation-là.
Simone Weber, elle a connu des épisodes douloureux, deux de ses enfants se sont suicidés, et vous allez accéder à certaines de ses demandes, notamment quand elle voudra aller sur leur tombe.
Un jour, il ne restait plus qu'elle et moi et mon greffier dans le cabinet. Elle dit « vous savez, j'ai perdu mes enfants, ils sont enterrés avec ma mère. Elle me dit, est-ce que vous pouvez me faire conduire par la police au cimetière? Alors, comme c'était une embrouilleuse de première, je dis non, je ne vais pas aller envoyer les flics parce qu'elle est prête à tout inventer. Alors j'ai dit non madame, ça c'est pas possible parce que j'ai une certaine méfiance à votre égard. Mais par contre, je vais vous emmener. Je serai là, mais vous n'en dites pas un mot. Elle a promis, donc j'arrivais à la tôle. Les gardiennes de prison me disaient, ah ben, ce matin elle a dit je sors avec mon amoureux aujourd'hui, donc elle allait chez le coiffeur de la prison. Elle prenait ses sous de son pécule. Avec les flics, les inspecteurs Jacques et Lambolaise, eh bien, on allait chez un fleuriste où elle avait ses habitudes, avenue de Strasbourg. On ne voulait pas qu'elle soit repérée. Donc, je disais, c'est quoi aujourd'hui? Des œillets, des roses rouges, blanches, etc. Elle disait, il y avait un flic qui allait acheter les fleurs et puis enfiler au cimetière. Et c'est le seul faux que j'ai commis de ma vie. J'avais fait faire un faux certificat nous permettant de, bleu, blanc, rouge, bien sûr, nous permettant de circuler en voiture dans le cimetière. On aurait obtenu l'autorisation de la mairie de Nancy, bien évidemment, mais c'était prendre le risque que ça se sache. Donc, on avait ce faux. Je l'amenais une fois tous les 3-4 mois sur la tombe de ses enfants, donc elle se recueillait, je me mettais un peu à l'écart, puis elle me tenait le bras quand c'était l'hiver, etc.
Et ça, ça va choquer la famille de Bernard Etier.
Je peux comprendre qu'ils n'aient pas spécialement apprécié. C'était un geste d'humanité vis-à-vis de quelqu'un qui a commis effectivement l'irréparable. En tout cas, c'est la décision de la cour d'assises, quoi qu'elle en dise. Mais j'avais pas davantage informé et j'ai pas demandé l'autorisation. J'avais pas demandé d'ailleurs à la famille de Bernard Etier. Ils apprendront ça par la suite. La réaction assez fréquente chez les victimes ou chez les familles de victimes, c'est de dire que le régime n'est jamais assez rude pour l'auteur d'un crime qui vous a blessé, je comprends.
Mais ça va servir à quoi de faire ami-ami avec Simone Weber si elle ne vous lâche rien?
Je ne faisais pas ami-ami dans l'espoir d'obtenir quelque chose. J'étais quand même conscient de ce que la vie de cette femme avait été particulièrement difficile, ce qui ne lui valait dans mon esprit aucune circonstance particulièrement atténuante au regard des comptes qu'elle devait rendre à la société. Ce sont des gens que j'ai en face de moi. Et j'aimerais bien, puisque quand j'ai vu Guy Georges pour la première fois, j'aurais bien préféré qu'il ait juste un œil comme le cyclope et qu'il ait la bouche des formé de bave, parce que là, on peut se protéger soi-même. On peut se dire, là, je suis en face de quelqu'un qui appartient pas à mon espèce, à mon humanité. Eh bien non, Guy Georges, il était particulièrement jovial. Il semblait, je faisais pas ami-ami avec lui non plus. J'essayais qu'il finisse par accepter ce qu'il a fait, de raconter ce qu'il avait fait et comment il l'avait fait. Ça, c'est l'intérêt stratégique de la démarche, de pas prendre le type de front, mais pour Simone Weber, jamais dans mon esprit m'est venu au bout de 3 ans et demi, hein, c'est arrivé, c'est sorti au cimetière aux 3 ans, l'idée qu'elle pourrait peut-être admettre avoir tué Bernard Etier.
Simone Weber est donc condamnée à 20 ans de prison. Elle sortira au bout de 14 ans, le 17 novembre 1999. Aujourd'hui, toutes ces années après, Gilbert Hill, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Simone Weber ?
Ça a été une histoire au long cours, tout le monde l'a compris. Et je l'ai vue une fois en 1999, elle voulait me poser une question. Donc, elle avait téléphoné à ma greffière un jour où j'étais pas au bureau, j'étais peut-être en Corse. Et ma greffière me dit à mon retour, il y a quelqu'un qui a appelé, je crois bien que c'était Simone Weber. Ben, je dis, elle a laissé un numéro, cette dame-là. Ben, donc, j'ai rappelé. Alors, tout de suite, j'ai reconnu sa voix un peu chointante. Et donc, je dis, attendez, on peut pas parler de tout ça au téléphone. Vous êtes toujours à Rennes? Oui, oui, j'étais en permission de sortie chez Madeleine, là, qu'il me dit. Ben, j'ai dit, je passerai la semaine prochaine ou la semaine suivante. Je dois aller en Bretagne. Je passerai vous voir à la maison d'arrêt de Rennes. Et là, je l'ai vue et elle a descendu l'escalier. Et à peine elle m'a vu, elle a recommencé de faire un peu sa comédie en disant « Ah, monsieur Thiel, vous voyez dans quel état je suis maintenant avec les patates de l'administration pénitentiaire, tout ça c'est de votre faute ». Alors j'ai dit « Attendez, madame Weber, on va pas recommencer le débat là, on l'a déjà eu pendant longtemps. Dites tout de suite que je suis le diable ».
Elle me dit, oh ben non, monsieur le juge, non, non, monsieur le juge, d'abord, pour que le diable existe, il faudrait que le bon Dieu existe. Or, le bon Dieu, il n'existe pas, je peux vous le dire maintenant. Ben, je dis, vous avez changé.
Vous venez d'écouter l'épisode des Voix du crime consacré à l'affaire Weber, grâce au témoignage du juge d'instruction, Gilbert Hill. Vous pouvez retrouver cet épisode, ainsi que tous nos podcasts, sur notre site rtl.fr.